cette machine, c'est celle qui changera le plus notre vie dans l'avenir.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Qu'est-ce qui a changé ?
Alors oui, qu'est-ce qui a changé pour cette deuxième saison de C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Nous allons toujours nous pencher chaque week-end de cet été sur les conséquences de la transformation numérique dans notre quotidien. Pour ce premier épisode, et même si certains d'entre vous sont en vacances, nous allons parler de l'avenir du travail. Chaque révolution technologique passe par une phase de destruction, de disparition de certaines activités, mais également par l'émergence de nouvelles compétences. Le numérique n'échappe pas à ce phénomène, il bouleverse nos conditions, nos méthodes de travail, avec une question de fond inquiétante comme elle a été abordée lors de la dernière campagne présidentielle. Y aura-t-il du travail pour tout le monde ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités Raja Chatila, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste de la robotisation. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Benjamin Gans, le directeur de l'EDFAB, le lieu d'innovation en éducation et formation du pôle de compétitivité dans le numérique d'Île-de-France. Bonjour.
Bonjour Didier.
Et depuis France Bleu, Brésil, Gilles Babinet, entrepreneur de la Net Économie, ancien président du Conseil National Numérique, intervenant maintenant auprès de la Commission Européenne.
Alors,
bonjour. Pas de changement alors par rapport à l'an dernier ? Bah si quand même, puisque nous accueillons un nouveau chroniqueur, Redouane Tella. Vous pouvez l'entendre durant l'année dans l'Instant M, le magazine média de France Inter, et il viendra pour des comptes numériques d'un jour d'été. Bonjour Redouane.
Bonjour Didier.
Autre nouveauté, un entretien chaque semaine avec Erdir, qui anime des crypto-parties. Ce sont ces rencontres pour apprendre à protéger ses données personnelles. Erdir nous donnera ses astuces pour ne pas se retrouver nu sur le web. L'émission est réalisée par Hélène Bizio, avec l'aide aujourd'hui d'Élise Christophe à la technique. Elle est préparée par Léa Dupuy-Yenquin et Martin Juré, et elle est mise en musique par Thierry Dupin.
Les études, nombreuses, je pense à celle de l'université d'Oxford qui évoque que 47% des emplois aux États-Unis pourraient être détruits à raison de leur automatisation. Nous avons aujourd'hui des données qui montrent quoi ? Qu'il y a ou qu'il y aura un bouleversement du travail qui, non seulement peut amener à ce que des emplois soient détruits, mais en tout cas conduira à ce que nos emplois soient transformés par la révolution numérique. Pour la France, un emploi sur deux pourrait être directement impacté par l'automatisation.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Didier Siamour.
Et pour commencer, Redouane, aujourd'hui vous avez tenu à nous présenter Sam.
Oui, on connaissait Sam, celui qui ne boit pas, mais là je vais vous parler d'un autre Sam qui ne boit pas, ne mange pas, ne dort pas, ne respire pas, bref, qui ne fait rien d'autre que de construire des maisons. Sam, son petit nom, c'est pour Semi-Automated Mason, car on parle là d'un robot maçon. Enfin, robot, on ne va pas s'emballer, ce n'est pas Johnny 5, R2-D2 ou 6PO. Sam, ce n'est pour l'instant qu'un bras automatique qui se contente de poser des briques les unes à côté des autres. Mais quand il s'agit de poser des briques, eh bien Sam, c'est le meilleur. Il est capable d'installer près de 3000 briques par jour.
Bon, on va vous partager sur le site internet de l'émission une vidéo où on voit Sam, c'est un gigantesque bras robotisé, en train de monter un mur à une vitesse hallucinante.
Oui, et lorsqu'on voit cette vidéo, on ne peut s'inquiéter, on ne peut que s'inquiéter du sort des maçons en chair et en os. C'est simple, Sam est 6 fois plus productif qu'un travailleur du BTP et il n'a ni besoin de se reposer, ni besoin de s'alimenter. Mais l'entreprise américaine qui commercialise la machine se veut hyper rassurante et précise qu'il n'est pas question de faire sans les maçons. Sam doit toujours être supervisé par un homme. Impossible pour le moment de faire travailler le robot seul. Les hommes réalisent les fondations, Sam pose les briques et les hommes se chargent de l'inspection des travaux finis en s'assurant qu'il ne manque pas une brique ou qu'il n'y ait pas trop de ciment. C'est ce qu'on appelle de la cobotique, l'homme travaillant main dans la main avec la robotique pour booster sa productivité. Le robot n'étant pas là un concurrent du travailleur, mais un outil, enfin je vous parle du Sam tel qu'on le connaît aujourd'hui, car l'entreprise américaine qui l'a développé est déjà en train de créer le Sam de demain. Plus performant, plus autonome et donc forcément moins dépendant des hommes.
Mais est-ce qu'il y a d'autres robots maçons de ce type ?
Oui, plusieurs entreprises se sont lancées dans la course aux robots constructeurs, mais pour l'heure, seul Sam est commercialisé. Soulignons tout de même l'initiative des chercheurs de l'université de Nantes qui ont développé la Batiprint 3D, une immense imprimante 3D française, donc capable de fabriquer en 72 heures des petites maisons de 95 mètres carrés. D'ailleurs, en septembre prochain, la Batiprint 3D Amadé va construire pour la première fois un logement social expérimental dans un quartier nantais. Cette petite maison sera testée pendant 12 mois et si au cours de cette période aucune anomalie n'est signalée, elle pourra accueillir des locataires.
Alors reste la question du coût. Si l'entrepreneur en BTP qui nous écoute est intéressé à l'idée d'acheter SAM ou Batiprint 3D, qu'est-ce qu'il doit faire?
Pour l'instant pas grand chose parce que Batiprint 3D n'est pas encore commercialisé et SAM n'est toujours pas disponible en France, mais aux États-Unis, il faut dépenser près de 500 000 euros pour s'offrir SAM. Pas sûr que le robot soit très rentable pour un petit entrepreneur. Et encore, SAM fait office de produit quasi low cost à côté de son concurrent australien Adrian X qui devrait arriver sur le marché courant 2019. Prix annoncé 2 millions d'euros. Le maçon en chair et en SMIC a encore de longues années devant lui.
Alors, monsieur Chatila, la construction de murs, c'est typiquement l'activité pour vous qui peut être robotisée?
D'une manière générale, la robotisation implique l'utilisation des robots pour des tâches relativement répétitives, donc construction d'un mur, poser des briques, aligner, etc., par exemple. Et historiquement, la grande vague d'automatisation des années 80, ça concernait ce type de tâches, souder, peindre, des carrosseries automobiles, etc. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ça dépasse le cadre de ce type de tâches pour aller dans des tâches un peu moins répétitives de ce point de vue-là.
On va voir ça dans quelques minutes. Monsieur Gantz, est-ce que ça signifie qu'il faut arrêter de former des maçons maintenant pour former plutôt des professionnels de l'imprimante 3D, par exemple ?
Il vaut mieux pas quand même arrêter de former des maçons. On serait bien embêté d'ici quelques années si on arrêtait de former des maçons. Commencer à construire, enfin travailler sur l'impression 3D sur ce type de problématique, par contre, ça devient effectivement intéressant. Ça me semble inévitable en tout cas d'y travailler.
Monsieur Babinet, vous êtes à Quimper, on vous entend grâce à France Bleu. À qui profite ce changement selon vous? À celui qui vend les robots? À celui qui va vendre les imprimantes?
je pense effectivement, mais c'est une allégorie, un peu à celui qui vend les bons robots. C'est-à-dire que la grande caractéristique du monde qui vient, pour l'instant, ce sont des concentrations de capitaux. C'est-à-dire que vous avez des gains de productivité permis par les robots, et puis vous avez celui qui a inventé le robot, ou plus particulièrement la plateforme qui fait fonctionner le robot, qui va prendre la très vaste majorité des gains de productivité qui sont issus de ce robot. Donc en d'autres termes, auparavant, vous aviez un travailleur... un bénéfice direct pour le travailleur de cette productivité. Puis aujourd'hui, vous avez un robot qui remplace 10 travailleurs et vous avez quelqu'un qui est à la tête d'une armée de robots et qui encaisse les bénéfices de l'ensemble de ces robots. Et ça, c'est quelque chose dont il faut probablement beaucoup plus s'inquiéter en soi que l'émergence des robots. C'est-à-dire que les robots sont plutôt un bienfait, je crois. L'inconvénient, c'est qui profite des robots.
Pour bien commencer ce programme consacré au travail et aux robots, on va reparler. Voici Work Song par Oscar Brown Jr. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and saving my time. Breaking rocks out there on a chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it. Been working and working. But I still got the table long to go. I commit the crime, Lord, I need him. Crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding. When he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. I reckon that ought to get it. Been waking and waking. But I still got the table long to go. Did you say 5 years hard labor on the chain gang, you guanaco? I heard the judge say 5 years of labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Oh, hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it. Been waking and waking, but I still got the table long to go. Thank you.
wanna see my sweet honey baby. Wanna break this chain off and run. I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold her steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that oughta get a bit wicked and wicked. But I still got so terrible long ago. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and saving my time.
Est-ce que vous savez qu'au début du 21e siècle, il y avait seulement 15% de chômeurs? Et puis ça a augmenté progressivement, jusqu'à maintenant. 80%. 80% de personnes considérées comme sans valeur parce que sans emploi. Alors, comme on ne savait plus quoi en faire, eh ben on a construit un mur et on les a mis derrière. Mais peut-être qu'au lieu de construire le mur, on aurait mieux fait de construire autre chose. Et puis surtout de se poser la question de savoir si c'est vraiment obligatoire de travailler pour avoir le droit d'exister, pour avoir le droit d'être quelqu'un.
Didier Siamour sur France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Avec un extrait de la série d'anticipation Trépalium, une série diffusée sur Arte en début de l'année 2016 et qui, comme de nombreuses œuvres de science-fiction, prédit une société future divisée en deux catégories, hein, ceux qui ont un emploi et les autres. C'est une des questions que nous abordons dans cette émission consacrée à l'avenir du travail avec les bouleversements provoqués par le numérique, un sujet évoqué lors de la dernière campagne présidentielle, notamment par le candidat Benoît Hamon, comme nous avons pu l'entendre en sortie de générique de l'émission, se référant par ailleurs à une étude de l'OCDE, Benoît Hamon estimait que 10% des emplois en France disparaîtraient d'ici à 2025. Plusieurs rapports confirment la menace. Une étude du cabinet McKinsey prévoit, elle, une automatisation de 45% des emplois au minimum, ce qui signifierait, par exemple, en Europe, près de 100 millions de personnes concernées. Parallèlement, une étude de Wedgepoint, elle explique que 60% des métiers qui pourraient faire travailler du monde en 2030 n'existent pas encore. Alors, destruction, transformation, création. Monsieur Chatila, vous êtes professeur donc à l'université Pierre et Marie Curie. Est-ce que chaque phase de progrès technologique entraîne des disparitions? Est-ce que c'est automatique?
Ah, c'est quasiment obligatoire d'une certaine façon. Chaque nouvelle technologie va transformer complètement le travail qui est impliqué par cette technologie. La disparition des cochers, par exemple, due à l'arrivée de la voiture, est évidente. La réduction de l'emploi dans l'agriculture grâce à la mécanisation de l'agriculture est bien connue. Ça ne va pas sans mal, évidemment, mais il y a un impact immédiat. Il ne faut pas confondre simplement emploi et tâches. On peut transformer certaines tâches d'un poste de travail, pas nécessairement toutes les tâches d'un poste de travail. Et donc, rendre le poste de travail en question plus efficace, avec un homme ou une femme derrière, tout en réduisant certaines activités pénibles de cette tâche. Par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais quand je dois faire un calcul, je prends ma calculatrice, je fais pas ça à la main. Et j'utilise le résultat ensuite pour développer d'autres équations, etc. Donc, nous-mêmes, au quotidien, on est impacté par le numérique de manière extrêmement directe de ce fait. Et dans les emplois, c'est exactement pareil. Mais l'impact sur certaines catégories d'emplois va être évidemment beaucoup plus important. Et il faut bien gérer la transition.
Mais on entend souvent un discours, vous qui spécialisez sur la robotisation, de ces robots qui viendraient remplacer les hommes, mais les hommes qui seraient là pour gérer, coordonner, assurer l'entretien. C'est souvent le discours qu'on entend. Et regardez dans l'automobile, un secteur je crois que vous connaissez bien, la robotisation voit bien que progressivement les hommes disparaissent des ateliers.
Alors oui, les hommes disparaissent des ateliers parce qu'on y met des machines, ce sont les robots, qui doivent travailler très vite, souder, peindre, etc., dans un environnement qui est finalement devenu hostile à l'homme. Donc il vaut mieux encager les robots et laisser les êtres humains ailleurs. ça a comme implication, bien évidemment, une réduction de certains postes de travail. Dire que l'homme va se contenter de superviser, ça je ne pense pas trop, parce que la supervision est une tâche d'abord qui va employer beaucoup moins de monde et qui est d'une nature différente, et ce n'est pas exactement le besoin. Il y a des besoins aussi pour un certain nombre de tâches où l'homme et la machine collaborent, ce qu'on appelle la cobotique. L'homme ayant plus, par exemple, de facilité à faire des tâches habiles de ses mains, à comprendre ce qu'il est en train de faire, et le robot étant amené à faire des tâches qui exigent un peu plus d'efforts, de force ou des actions répétitives pour lesquelles la personne humaine serait fatiguée assez rapidement. Donc aussi, on s'oriente pour certaines activités vers un partage des tâches. Ce n'est pas de la supervision. Hein. Tous les deux sont impliqués directement. La supervision, c'est une autre façon de faire, qui est nécessaire aussi, quand on a quelque chose qui est complètement robotisé, automatisé, et il faut contrôler que tout se passe bien. Mais je pense que ça n'impactera qu'une petite partie des activités qui seront complètement robotisées. Elles le sont déjà, en fait, ces tâches-là.
Alors, il y a quand même cette question sur la disparition globale du travail. Nous avons interrogé Jérémy Lamry, qui est fondateur de l'ABRH, une association qui regroupe 400 startups spécialisées, justement, dans les ressources humaines.
Je crois en une société où à peu près 20% de la population a un emploi, c'est-à-dire qu'elle travaille dans un cadre bien défini. Que les autres n'auront pas spécialement d'emploi, vivront dans une économie qui est assez informelle et peut-être seront engagés dans des associations, feront des actions civiques ou même ne travailleront pas. La grosse fracture qui va arriver dans notre société, c'est le fait que le travail et l'emploi se dissocient. Les gens devront être capables de trouver eux-mêmes leur manière d'apporter de la valeur à la société. Et c'est pour ça qu'on va retomber, à mon sens, plutôt dans des logiques un peu comme on a pu voir le troc à certaines périodes, où on aura deux types en fait de sociétés. Les gens qui vivent bien parce qu'ils ont un emploi, parce qu'ils ont une vie structurée, et les autres qui se débrouillent au quotidien. Et ce sera un peu la basse-cour et le royaume.
La basse-cour et le royaume, une distinction qui fait un peu peur, monsieur Babinet, non? Monsieur Babinet.
Une chose qui est assez... Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est assez juste. Hein. C'est-à-dire que, pour le moment, on ne voit pas tellement ce monde se dessiner. En réalité, les machines, pour le moment, ne nous aident pas tellement à supprimer le travail. C'est-à-dire que les gains de productivité, ils sont historiquement plus faibles qu'ils n'ont jamais été dans les 70 dernières années. Donc, a priori, pas grand-chose à craindre. Mais à peu près tous les économistes, tous les chercheurs sont unanimes. Il devrait croître de façon très très forte dans les années qui viennent, notamment du fait de l'émergence de l'intelligence artificielle qui pilote les robots. Et donc, on va avoir la nécessité de diviser le travail, comme ça a été fait par le passé. On a divisé par deux le nombre d'heures travaillées en 140 ans à peu près. On est passé de 80 heures dans le sud de la France en 1840. On le sait aujourd'hui aux alentours de 30 heures à peu près par travailleur, et il va falloir réfléchir à la façon dont on organise ça, parce que si ça n'est pas pensé, ça risque d'être hautement problématique, avec des gens qui vont s'accaparer de la valeur et puis d'autres qui seront laissés sur le bord de la route. Donc il va falloir penser la société, et je pense que ce que Jérémy vient d'évoquer est quelque chose d'intéressant, où l'activité ne correspondra pas forcément au travail, c'est-à-dire les activités sociales. Je crois que c'est d'ailleurs également Benoît Hamon qui avait proposé qu'on puisse travailler 5 heures de son temps dans des associations. Donc c'est des pistes que certains peuvent évidemment considérer comme maladroites, mais qui ne restent pas moins des pistes intéressantes, parce que il va falloir qu'on repense très fortement l'organisation sociale dans un contexte où les robots vont faire des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et je crois que là où il faut percevoir ça, c'est qu'ils rentrent actuellement dans le monde des services. C'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé dans le début de cette émission de l'industrie. L'industrie, elle est déjà très largement automatisée et on va continuer à l'automatiser beaucoup plus. Mais ce qu'on ne savait pas aujourd'hui automatiser, c'est le monde des services, ce sont des tâches qui sont complexes et à haut niveau d'incertitude, donc difficiles à automatiser, a priori.
Ça veut dire qu'on est sorti...
Avec les intelligences artificielles,
Monsieur Babinet, ça veut dire qu'on est sorti, justement, ce que racontait tout à l'heure Monsieur Chatila, sur ces tâches répétitives. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire autre chose, commencer à remplacer l'homme pour autre chose que des tâches répétitives.
Prenez un domaine très simple comme celui de la comptabilité d'une entreprise. Donc c'est fait de tâches qui sont, comme il l'énonçait d'ailleurs, très différentes les unes des autres. Il faut rassembler les factures, les trier, les saisir, s'assurer qu'il n'y a pas de faute, retourner voir des collaborateurs pour récupérer des pièces manquantes, etc., etc. Donc quand vous avez des processus qui sont digitalisés, vous pouvez très facilement confier ça à des machines et de ce fait avoir des gains de productivité qui sont presque absolus, où les machines font, pour ainsi dire, tout. Donc vous avez un enjeu qui est de savoir ce que vous allez faire des comptables qui auparavant s'occupaient de ces fonctions-là, et cela vous pouvez le répéter dans à peu près une très très grande quantité d'activités aujourd'hui dévolues au monde des services.
Alors Benjamin Gans, est-ce qu'il y a selon vous des emplois qui sont protégés, des secteurs encore protégés face à cette vague justement de remplacement ?
Oui, heureusement il existe encore des emplois qui sont protégés. Je voulais juste rebondir en fait sur ce que vient de dire Gilles. Effectivement, on a des emplois qui ne le sont plus. Je pense notamment aux robots rédacteurs qui ont fait irruption dans le domaine des médias et qui aujourd'hui sont capables de rédiger des petites brèves à partir d'informations statistiques ou d'informations chiffrées.
En radio d'ailleurs, on est en train de travailler aussi aux États-Unis actuellement pour remplacer les journalistes pour faire les flashs d'informations, si on est en train de découvrir ça.
Donc effectivement, même les emplois dits intellectuels ne sont plus protégés. Toutefois, ce qu'on voit aussi, ce qu'on perçoit, c'est qu'on a un certain nombre de métiers qui, pour l'instant, résistent un peu. Et moi, ce qui m'a intéressé dans une démarche qu'on a initiée chez Cap Digital, c'est plutôt de se projeter sur ces métiers qui sont en transformation ou qui sont en train d'émerger.
Alors, on va y venir. Alors, pour Jérémy Lamrine, on l'écoutait tout à l'heure, le fondateur de l'ABRH, certains métiers, selon lui, sont à l'abri.
Les métiers qui ne vont pas être remplacés sont les métiers qui comportent quatre grandes dominantes. C'est la créativité, l'esprit critique, la communication et la coopération. C'est quatre grandes compétences, on appelle ça les 4 C. Et en fait, tous les métiers qui comportent une part importante de ces quatre compétences-là n'ont pas vocation à être remplacés facilement par la machine.
Alors, quels sont les métiers qui peuvent allier créativité, esprit critique, communication et coopération, Monsieur Gant ?
Alors, on a des métiers qui sont en train d'émerger, qui sont justement à la frontière de ces quatre compétences-là, je pense à créatif technologiste, par exemple, qui est celui qui, dans une agence de communication, va faire émerger des nouvelles manières de présenter les produits en connectant l'innovation au projet marketing. Voilà, c'est un exemple de métier qui est en train de se transformer et qui allie l'ensemble de ces compétences.
Alors avec l'intelligence artificielle, on voit quand même qu'on est en train de passer un autre cap. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause quand même à un moment donné de certaines activités un peu plus profondes ? D'autant plus qu'on parle de plus en plus, Monsieur Chatila, de machine learning, c'est-à-dire cette capacité en fait aujourd'hui des machines à apprendre par elles-mêmes.
Oui, l'apprentissage effectivement est à la source de beaucoup de transformations qui ont lieu aujourd'hui dans les services. Le principe qui est rendu possible grâce finalement à la vitesse de calcul des ordinateurs aujourd'hui, c'est de prendre une grande quantité de données qui sont des exemples, qui sont préparés par des humains, et à partir de cette grande quantité de données, de cas, les classer finalement aboutir à travers un système d'apprentissage qui a appris à faire cette classification, à distinguer les choses dans différentes catégories. Donc, de ce fait, le système va apprendre ce qu'il ne savait pas avant. Par exemple, si je montre des millions d'images de chats à un système d'apprentissage, il va être capable de reconnaître un chat. Et on peut appliquer ça à n'importe quoi. On peut l'appliquer à faire effectivement des vérifications de comptabilité. Mais moi, je pense quand même que les quatre caractéristiques que vous avez énoncées ne sont pas à l'abri de systèmes d'apprentissage. Il n'y a rien de malin là derrière. Si vous me définissez la créativité, je peux vous faire un programme créatif. Qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, je crois que Benjamin a défini la créativité en disant qu'il associait des choses différentes. Eh bien, moi, je peux faire un programme qui associe des choses différentes. Donc, il sera créatif. Maintenant, il sera peut-être créatif dans le mauvais sens, dans le bon sens. On va corriger ça. Puis, au bout d'un certain temps, il va créer quelque chose qui n'existait pas, effectivement, dans les définitions préalables. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop annoncer à l'avance, voilà, quelque chose sera à l'abri ou protégé. D'ailleurs, le terme « protégé » lui-même induit le fait que quelque chose est attaqué, alors qu'il y a une transformation et qu'il faut la prendre positivement, dans le sens où, de ce fait, on va réfléchir de manière un peu plus approfondie sur la transformation, finalement, du travail, de la société, de la notion de travail, qui est d'ailleurs une notion relativement moderne. Est-ce que le travail, au sens labeur, est vraiment nécessaire pour avoir sa place dans la société ? Voilà les réflexions qu'il faut avoir en même temps que l'accompagnement de ces transformations.
Gilles Babinet, tout à l'heure vous insistiez justement là-dessus sur ce côté travail égale emploi, c'était un peu le leitmotiv jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut vraiment faire la distinction.
Oui, en fait je crois que c'est assez intéressant parce que finalement il est probable que si ce débat avait eu lieu il y a peut-être une cinquantaine d'années, on aurait surtout évoqué les bienfaits de ce débat. Alors il y a eu différentes phases dans l'histoire, mais je pense que dans certaines phases de l'histoire où tout le monde est très allant avec la modernité, on a accepté les machines parce que il y avait une forme d'accélération de l'économie qui profitait à tout le monde et qu'on perçoit bien que ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc normalement ça devrait être une bonne nouvelle parce que ça permettrait effectivement de retirer l'aspect tripalium entre guillemets, cette racine un peu difficile qu'a le mot travail, c'est-à-dire un instrument de torture, et faire en sorte que tout ce qui n'est pas intéressant dans le travail soit dévolu aux machines et que on ait des activités, c'est-à-dire que finalement on se soucie plus de s'intéresser aux autres, à la nature profondément irrationnelle et artistique de l'être humain, qui est quand même ce qui nous différencie jusqu'à présent des machines. Mais ce que les gens perçoivent bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est où va le bénéfice de ces gains de productivité. Et si il n'est pas partagé, eh bien, c'est quelque chose que l'on ôte à chacun d'entre nous sans échange du bénéfice.
Oui, on aura compris que ça sert d'abord à l'actionnaire avant celui qui travaille. On l'aura compris, avec le numérique, en tout cas, l'emploi n'est plus sous garantie, le titre de la chanson de Malik Djoudi.
C'est peut-être excessif. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes monsieur Tobourdeau, c'est ça?
Oui.
Je voulais vous remercier d'avoir accepté de faire cet entretien sur Skype.
Je vous en prie.
J'ai eu votre CV par Pôle emploi. Je voudrais d'abord savoir sur quelle machine vous avez travaillé.
J'ai travaillé sur des Cornwell, et d'abord, au début, et après sur Kiran.
La version de l'IMH, c'était la 7 ou la 8?
La 7, parce que on a travaillé sur la 7 jusqu'à la fermeture de l'usine, donc j'ai pas eu l'occasion de travailler sur la 8.
Et vous n'avez pas eu envie de vous renseigner
Si, si, mais la 8, enfin, je sais qu'il y a des différences. C'est un système intégré qui marche sur Profibus, mais c'est difficile d'avoir accès aux documents techniques quand on n'est pas sur les machines. Or, moi, je travaille uniquement sur la 7.
Bon.
Mais je pense que je pourrais m'adapter très facilement.
La loi du marché, le film de 2015 de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon et sa voix si identifiable, qui joue le rôle d'un demandeur d'emploi qui tente donc de retrouver du travail. Deux indicateurs intéressants dans cet extrait pour le sujet qui nous occupe, à savoir l'avenir du travail. Tout d'abord, un entretien, on pourrait dire numérique, via Skype. Ensuite, la nécessité de se former, de s'adapter. Deux tendances qu'on retrouve dans l'évolution du travail au XXIe siècle, avec la transformation numérique qui bouleverse le mode de recrutement et l'obligation donc de formation permanente. Benjamin Gant, vous qui vous occupez justement d'éducation et de formation à Capdigital, est-ce que c'est aujourd'hui la priorité, en fait, cette capacité d'adaptation?
Oui, effectivement, ça fait partie des priorités. Par contre, pour que cette priorité soit atteinte, il faut que les salariés aujourd'hui aient conscience que le monde change et qu'il faille effectivement s'y adapter. Moi, je voulais juste revenir sur un événement qui a eu lieu il y a un an. C'est un micro-événement. J'étais face à des demandeurs d'emploi, des jeunes, et je leur disais aujourd'hui, vous avez des opportunités extraordinaires parce que de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs sont en train de se créer. Des métiers, des secteurs pour lesquels vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous avez juste besoin de curiosité, de volonté, d'ambition. Pour réussir dans ces nouveaux secteurs, et je leur cite l'exemple des Fab Labs, ces nouveaux ateliers de fabrication numérique, et je leur dis, voilà un exemple de nouveaux secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez aujourd'hui vous former concrètement sur le terrain, et vous n'avez pas besoin de diplôme. Et je réalise en parlant que, en fait, ils ne savent pas ce qu'est un Fab Lab, ils ne savent pas ce qu'est une imprimante 3D, et il y a un vrai décalage entre moi dans ma bulle d'innovation et ce jeune public-là qui est déconnecté finalement, qui ne sait pas se projeter dans ses métiers de demain et qui lui aussi évolue dans une bulle, mais beaucoup plus restreinte, qui est les outils sociaux dans lesquels qu'ils utilisent régulièrement. Et c'est ce petit événement qui est à l'origine d'un cycle de conférences qu'on a initié chez Capdigital, consacré aux métiers de demain, dont l'objectif justement est de réussir à ce que des jeunes, des étudiants, des gens qui sont en reconversion professionnelle puissent se projeter dans ces métiers qui sont en train d'émerger, de se transformer et de voir de quelle manière on peut s'y former justement.
Oui, alors oui, mais en même temps, je le disais tout à l'heure en début d'émission, il y a 60% des métiers qui sont attendus pour 2030 qui n'existent pas encore si on se réfère aux études. Alors comment former à quelque chose qui n'existe pas? C'est quand même la vraie question.
Alors le fait est que effectivement on a cette prédiction là, c'est aussi une étude c'est une étude qu'on voit souvent apparaître dans les médias. Par contre, moi, je ne crois pas forcément à une génération spontanée de nouveaux métiers qui apparaîtrait d'ici une quinzaine d'années. Les choses vont se faire progressivement. Et ce qu'on voit dans les meet-ups que j'ai organisés, c'est justement que ces métiers sont en train d'émerger. On a des signaux faibles qui permettent de voir que, voilà, dans les métiers du marketing, dans les métiers du drone, dans les métiers de la robotique aussi, les choses sont en train d'évoluer. On va pas avoir en 2030, parce que là, cette prédiction concerne 2030, plusieurs milliers de nouveaux métiers qui vont apparaître.
Alors voici encore le regard de Jérémy Lamry, le fondateur de l'association LabRH, qu'on a interrogé sur ces nouvelles compétences.
Aujourd'hui, il y a trois grandes chose dont on a besoin dans notre monde, c'est apprendre à apprendre, apprendre à réfléchir et apprendre à interagir. Et avec ça, on sait s'adapter. L'école n'apprend pas ces choses-là de manière aussi claire. Elle va nous apprendre à savoir des choses. Le problème, c'est qu'en 2017, si notre qualité, c'est de savoir des choses, bah, Google ou une clé USB sont beaucoup plus intelligents que nous. On devrait plutôt apprendre à s'adapter en permanence. Et à côté de ça, les entreprises, quand elles cherchent quelqu'un, elles recherchent avant tout un diplôme ou une expérience, et pas tellement une capacité à apprendre. Elles veulent que la personne, elle sache faire. Et elles ont encore du mal à se dire que même si elle sait pas faire, elle peut peut-être apprendre à faire. Et dans une logique où les métiers vont évoluer tous les ans, maintenant tous les deux ans, il vaudra mieux prendre quelqu'un qui sait apprendre et qui saura s'adapter sur le tas au métier qu'il a à faire. Google, qui est très en avance sur les sujets RH, Google a depuis le début de cette année officialisé le recrutement par le cognitif. C'est-à-dire que Google s'intéresse à la capacité des gens à apprendre. Et c'est l'un des principaux critères de recrutement.
Monsieur Chatila, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Aujourd'hui, il faut apprendre à apprendre, c'est déjà la première nécessité.
Je pense qu'il a tout à fait raison, Jérémy Lameyri, parce que effectivement, les choses évoluent très vite. D'ailleurs, l'interview de l'extrait du film que vous avez montré l'exprime bien. Le demandeur d'emploi connaît la génération 7, il ne connaît pas la génération 8, et la génération 8, elle est déjà là, et la génération 9 va suivre, etc. Donc, être formé sur quelque chose de précis n'est pas vraiment ce qui est important. Ce qui est important, effectivement, c'est apprendre à apprendre et être capable de s'adapter. Mais cela dit, le cycle de la formation humaine est lent par rapport au cycle de renouvellement des mécanismes, des outils, etc.
Qui est en pleine accélération.
Qui est en pleine accélération. Donc, nous, les humains, on sera toujours à courir derrière, essayer d'apprendre. Et donc, je ne suis même pas certain que savoir apprendre à apprendre soit suffisant. Il faut vraiment repenser tout le mécanisme, et je crois que Jérémy Lameyri l'a dit aussi auparavant, il faut repenser le mécanisme du rôle du travail, de l'emploi, de la manière dont les résultats de la productivité sont répartis. Et ça, c'est une question beaucoup plus fondamentale. Les transformations dans le passé ont toujours résulté dans une transformation même de la nature du travail dans le monde. Aujourd'hui, on passe beaucoup moins de temps à travailler, par exemple, que dans le passé.
Alors, le numérique ne bouscule pas que le travail en tant que tel, mais également aussi la manière de recruter, en faisant appel également à l'intelligence artificielle. Un exemple d'acteur dans le recrutement, la start-up Assess First et son fondateur, David Bernard.
On est spécialisé dans ce qu'on appelle le recrutement prédictif. C'est-à-dire qu'en gros, on a créé une solution qui va permettre aux entreprises de prédire la capacité de leur candidat à réussir et leur capacité à s'épanouir dans le cadre du job pour lequel elle est recrutée. Et pour ça, on ne va pas s'appuyer sur les critères qu'on peut retrouver dans un CV, comme le type d'école qu'on a fait ou encore le type d'expérience qu'on a eu, mais on va s'appuyer sur le potentiel, c'est-à-dire qui sont les personnes. Donc tout ce qui a trait à leur capacité de raisonnement d'apprentissage, ça, c'est la première chose. La deuxième, ce sont leurs motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui les met en mouvement, qu'est-ce qui va les pousser à l'action. Et la troisième, c'est la partie personnalité, c'est-à-dire en gros, on va essayer de bien comprendre quels sont les comportements naturels qu'une personne va présenter, que ce soit en situation normale ou de stress. Alors qu'est-ce que l'algorithme va faire de mieux qu'un recruteur humain, entre guillemets? C'est tout simplement arriver à prendre en compte ces différents facteurs et les traiter de manière objective, de manière standardisée, c'est-à-dire à chaque fois de la même façon pour chacun des candidats. Et surtout, l'algorithme va pouvoir traiter des centaines de critères en même temps, alors que ça serait totalement impossible pour un être humain. Il y a pas mal d'études qui sont réalisées justement, qui ont comparé l'issue des recrutements menés par des êtres humains et menés par des algorithmes. On se rend compte que systématiquement, lorsque vous confiez la présélection des candidats à un algorithme, il y a 25% de probabilité en plus d'identifier des candidats performants que si c'est un être humain qui le fait.
Alors, la machine, on l'a compris, n'impacte pas donc que le travail, mais également, elle pourrait dicter le fait d'en trouver ou pas. Vous êtes d'accord avec ça, Gilles Babinet?
Ah oui, je pense que c'est des choses que l'on ne perçoit pas. Aujourd'hui, vous avez de très nombreuses entreprises qui se reposent sur des intelligences artificielles pour effectivement sélectionner des candidats. Et cela va s'étendre à des fonctions que l'on n'imagine pas. Je pense par exemple à tout ce qui est jugement dans le monde de la justice. On voit que les machines artificielles, les intelligences artificielles sont probablement plus équitables. Ça peut paraître surprenant et ça nous choque forcément d'entendre ça, que peuvent l'être des juges qui parfois parce qu'ils sont fatigués ou parce que ils n'ont pas eu l'attention qu'ils auraient dû avoir, ne commettent pas la justice avec la même équité pour tous. C'est la même chose pour les recrutements. Donc vous avez des bonnes démonstrations de là où viennent s'immiscer les intelligences artificielles, c'est-à-dire absolument partout, et ça a été dit à plusieurs reprises. Je crois que une grande difficulté à organiser un monde qui va être très différent et où la régulation, l'organisation du monde du travail, mais au-delà de ça, l'organisation de la distribution de la valeur sera quelque chose qui va devoir nous occuper sur un plan politique d'une façon forte pour les décennies à venir.
Il y a quand même une question centrale derrière tout ça, c'est quand même le statut du travailleur. On voit bien quand même que sous l'influence du numérique, c'est aussi le statut qui est en train de changer, c'est pas simplement le fait de l'emploi. Et est-ce qu'on n'est pas passé en fait d'un travail pour un patron à un travail pour un client ?
Oui, c'est un des enjeux qui est assez surprenant, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une demande des acteurs professionnels d'une flexibilisation du marché du travail qui est très importante, à cor et à cri. Mais ce que l'on vous dit également, et votre extrait le montre bien, c'est que on a besoin de gens qui soient formés non plus une fois dans leur vie, mais tout au long de leur vie. Et notamment qu'ils soient beaucoup plus flexibles sur le plan de leur capacité à apprendre de nouvelles choses, etc. etc. Donc il y a vraisemblablement une des façons de répondre à cette phase de très grand changement, c'est d'investir dans le capital humain, dans l'éducation. Et c'est une des caractéristiques, je crois, des nations qui réussiront demain. C'est-à-dire que vous alliez voir dans les pays scandinaves ou même dans la Silicon Valley, qui n'est pas du tout représentatif de ce que pourrait être le monde du travail demain, ce qui vous frappe, c'est le fait que les gens ne cessent d'apprendre. Et donc, c'est quelque chose qui devrait nous guider sur la façon dont on devrait structurer la société de demain.
Pour finir, une nouveauté dans C'est pour aujourd'hui ou pour demain, saison 2, on vous emmène, chers auditeurs, dans une crypto-partie radiophonique. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-partie ? Il s'agit de réunions pour vous apprendre à vous protéger sur le net, c'est-à-dire à éviter de laisser derrière vous trop de traces, de données privées, afin de ne pas vous faire pirater ou espionner. Les crypto-parties sont nées en 2012 sur l'idée d'une jeune Australienne, Asher Wolf, qui se posait beaucoup de questions après le vote de textes incitant à la surveillance. Depuis, de nombreuses réunions se tiennent aux quatre coins du globe, souvent dans des cafés où des experts du net nous apprennent à nous protéger. Car, comme le dit Erdir, l'un d'entre eux, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on doit tout montrer. Ce même Erdir qui va nous initier tout l'été à nous protéger. Et on commence aujourd'hui avec un thème assez basique, le mot de passe.
Le problème du mot de passe, c'est que généralement on en a beaucoup. Donc il faut en retenir plusieurs. Donc ce que font les gens la plupart du temps, c'est qu'ils mettent le même partout. Et ça, c'est une très grosse erreur. Si un jour, il y a une faille de sécurité informatique chez un de ces services, donc ce qui s'est passé par exemple l'année dernière chez Yahoo, qui s'est fait pirater plus de 30 millions de comptes e-mail, en laissant votre mot de passe identique partout, et ben vous rendez la tâche plus facile aux gens qui ont envie de s'introduire dans votre vie privée. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de mettre des mots de passe compliqués. On pense que les mots de passe compliqués, on ne peut pas les retenir. Le mieux, en fait, c'est d'avoir une phrase en tête. Par exemple, j'aime manger les haricots en été. Et on prend, par exemple, la première lettre de chaque mot. Et par exemple, le mot été, on peut se dire, bah tiens, on va mettre un E majuscule. Donc, j'aime manger les haricots, J-M-H, en été, donc E majuscule. Et sinon, il existe encore une autre solution, qui est le gestionnaire de mots de passe. Si vous avez un Mac à la maison, vous avez une application qui s'appelle Trousseau. Et cette application-là, en fait, vous propose, par exemple, de sauvegarder vos mots de passe. Mais si vous n'avez pas de Mac, vous avez un logiciel qui s'appelle KeePass, K-E-E-P-A-2-S, qui, lui aussi, est un gestionnaire de mots de passe et qui va vous permettre, en fait, de tout stocker dans ce petit fichier que vous pourrez recopier partout. La seule chose que vous aurez à vous souvenir, c'est le mot de passe master pour justement ouvrir ce fichier en question où tous vos autres mots de passe seront stockés à l'intérieur.
Est-ce qu'il y a une structure de mot de passe plus difficile à déchiffrer que d'autres ?
Alors, un mot de passe complexe, c'est un mot de passe avec des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, donc point d'exclamation, point d'interrogation, point tout court. Malheureusement, certains serveurs, certains services ne veulent pas que vous utilisiez plus de 6 caractères ou de 8 caractères, ce qui est une hérésie de nos jours, puisque tout devrait pouvoir être stockable à plus de 30 caractères au moins. À savoir aussi que KeePass vous aide à générer de nouveaux mots de passe, donc des mots de passe complexes. Donc vous pouvez lui dire « je veux un mot de passe de 60 caractères ». Et là, ce sera la sécurité ultime, parce que même sous la torture, vous ne connaîtrez pas vous-même votre propre mot de passe.
Est-ce qu'il faut changer régulièrement ces mots de passe?
Alors moi, je vous conseille de le changer au moins une fois par an. Pourquoi? Parce que même des gros services comme Yahoo, LinkedIn, Twitter, etc. se font parfois hacker. Et donc après, vos comptes se retrouvent dans la nature. Et si votre compte est dans la nature, eh bien naturellement, les gens malveillants vont aller regarder si vous n'avez pas le même mot de passe ailleurs ou si vous n'avez pas créé un compte joint. Et il y a un moyen très simple en fait de voir si on s'est déjà fait pirater. Il y a des sites internet où vous pouvez rentrer votre compte email et voir en fait s'il fait partie d'une liste de comptes qui ont été piratés justement, dans lesquels on a trouvé en fait une faille.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
On vous indiquera les sites internet sur la page 2, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. C'est fini d'ailleurs pour aujourd'hui. Merci à nos trois invités, Raja Chatila, Benjamin Gans et Gilles Baninet. On vous retrouve la semaine prochaine.